France Inter.
Aux origines de la domination masculine, racontée par...
Claudine Cohen, philosophe et historienne des sciences, spécialiste des sciences de la préhistoire et de la paléontologie.
France Inter, La Terre au carré, Mathieu Vidard.
La femme a toujours été, sinon l'esclave de l'homme, du moins sa vassale. Les deux sexes ne se sont jamais partagés le monde à égalité. Et aujourd'hui encore, bien que sa condition soit en train d'évoluer, la femme est lourdement handicapée. En presque aucun pays, son statut légal n'est identique à celui de l'homme. Et souvent, il la désavantage considérablement. Même lorsque des droits lui sont abstraitement reconnus, une longue habitude empêche qu'il ne trouve dans les mœurs leur expression concrète. Économiquement, hommes et femmes constituent presque deux castes, toutes choses égales. Les premiers ont des situations plus avantageuses, des salaires plus élevés, plus de chances de réussite que leurs concurrentes de fraîche date. Ils occupent dans l'industrie, la politique, un beaucoup plus grand nombre de places et ce sont eux qui détiennent les postes les plus importants. Outre les pouvoirs concrets qu'ils possèdent, ils sont revêtus d'un prestige dont toute l'éducation de l'enfant maintient la tradition. Le présent enveloppe le passé et dans le passé, toute l'histoire a été faite par les mâles. Au moment où les femmes commencent à prendre part à l'élaboration du monde, ce monde est encore un monde qui appartient aux hommes. Ils n'en doutent pas, elles en doutent à peine. Refuser d'être l'autre, refuser la complicité avec l'homme, ce serait pour elles renoncer à tous les avantages que l'alliance avec la caste supérieure peut leur conférer. L'homme suzerain protégera matériellement la femme lige et il se chargera de justifier son existence avec le risque économique. Elle esquive le risque métaphysique d'une liberté qui doit inventer ses fins sans secours. Mais une question se pose aussitôt, comment toute cette histoire a-t-elle commencé? Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, 1949. Bonjour Claudine Cohen.
Bonjour.
Comme effectivement vous l'avez fait, vous avez travaillé aux origines donc de la domination masculine. C'est l'objet de cet ouvrage qui paraît aux éditions Passé Composé. Et on l'entendait dès le premier chapitre du deuxième sexe. Simone de Beauvoir affirme que c'est en reprenant les données de la préhistoire et de l'ethnographie que nous pourrons comprendre comment la hiérarchie des sexes s'est établie. Et c'est exactement le travail auquel vous avez procédé.
Absolument. Alors Simone de Beauvoir donne quelques éléments de réflexion sur la préhistoire, sur le paléolithique et le néolithique. Oui. Il faut dire que sa documentation est assez pauvre. Elle allait quelques jours en bibliothèque, lire quelques ouvrages à l'époque. On est en 1949.
C'était pas l'objet du livre en soi.
Pas du tout. Ouais. C'est l'objet des premiers chapitres. Ouais. Et c'est plus spéculatif que fondé vraiment sur des éléments concrets. C'est une question très difficile.
Vous y êtes confronté à cette difficulté ?
Voilà, on a quelques pistes qu'on peut essayer d'exploiter aujourd'hui pour émettre des hypothèses, parfois un peu plus que des hypothèses.
Ouais. Et comment on procède alors pour essayer de voyager aux origines de cette domination ? Quelles sont les disciplines qu'ils font convoquer justement pour mener l'enquête ?
Écoutez, moi j'ai beaucoup travaillé depuis plus de 20 ans sur la question de la place des femmes dans la préhistoire, comme science des sociétés humaines avant l'invention de l'écriture, donc au paléolithique et au néolithique. Les sciences de la préhistoire, donc paléontologie humaine, la science biologique de l'évolution préhistoire, sont évidemment convoquées, même si les traces se perdent de plus en plus au fur et à mesure qu'on va de plus en plus loin. Il y a aussi des éléments d'éthologie qu'on peut convoquer, sur lesquels on peut réfléchir. Il y a des éléments d'ethnographie qui nous permettent d'établir parfois des ponts, des comparaisons entre les sociétés actuelles de chasseurs-cueilleurs ou d'agriculteurs-éleveurs et les sociétés paléolithiques et néolithiques du passé. Oui. Et puis, il y a toutes sortes de disciplines qui ont surgi récemment et qui peuvent être techniquement des aides extrêmement précieuses à la réflexion sur la dualité des sexes et les rôles sexuels, par exemple la biologie moléculaire, la paléogénétique, qui au moins permet d'identifier un certain nombre de traits biologiques, même si évidemment le contexte dans lequel je réfléchis n'est pas un contexte biologique, mais un contexte social. Quand je parle de domination masculine, je parle vraiment de la construction sociale des sexes dans la famille humaine et dans notre histoire humaine.
Vous évoquez l'éthologie, on peut s'intéresser aux comportements sociaux des grands singes pour explorer la domination masculine. On va en parler dans un instant, ça va éclairer justement nos propres comportements. Si vraiment on remonte très très loin le fil de l'histoire préhistorique, est-ce qu'on peut parler par exemple de domination masculine il y a 7 millions d'années au moment où émergent les premiers hominines?
Alors, on peut le faire, mais avec vraiment beaucoup d'audace, parce qu'à 7 millions d'années, on a quoi? On a un fossile, on a Toumaï. Au point de vue des traces concrètes, évidemment, plus on va dans le passé, et plus ça se perd, et plus il y a d'éléments minuscules. Cela dit, il y en a quand même. Il y a des gens qui spéculent sur, par exemple, le dimorphisme sexuel, le dimorphisme de taille. Il y a des grands débats là-dessus. Il y a encore des articles qui sont parus cette semaine sur les australopithèques, sur le fait que certaines espèces d'australopithèques auraient un dimorphisme sexuel assez prononcé, ce qui serait un signe de domination du mâle sur la femelle, mais ça reste controversé, ça reste une hypothèse. Et puis, on peut avoir des grands modèles de réflexion, en particulier autour de la bipédie, puisque c'est la bipédie qui caractérise l'humain, même à 7 millions d'années. Et cette bipédie, elle a certainement joué un rôle extrêmement important dans la reconfiguration du corps des individus, en particulier des femmes, dans les relations sexuelles et la manière dont elles se modalisent, dont elles s'expriment dans la famille humaine. Et en particulier, la bipédie, c'est probablement un facteur essentiel pour la perte de ce qu'on appelle les signes visibles de l'estrus, les signes sensibles de l'estrus, qui ont changé les formes de la sexualité humaine par rapport à celles des grands singes et des autres animaux, à savoir que celle-ci n'est pas déterminée par des épisodes ponctuels de rute, de rute chez la femme qui implique donc le rute chez l'homme, mais par une sexualité possible de façon permanente. Et ça a tout changé.
Alors vous commencez votre ouvrage en parlant d'abord de Charles Darwin, vous le rappelez, en 1868, c'est-à-dire 10 ans après la publication de L'Origine des Espèces, entreprend la rédaction d'un nouveau livre, La Descendance de l'Homme, qui situe les relations entre les sexes au centre de sa réflexion sur justement l'évolution humaine. Et dans cet ouvrage, il commence par démontrer le comportement lié au choix sexuel dans le règne animal avant d'appliquer sa démonstration à l'espèce humaine. Qu'est-ce qu'il démontre exactement là-dessus ?
Mais écoutez, il veut d'abord montrer qu'il y a une filiation de l'homme aux animaux, qu'il y a des comportements permanents chez les animaux et chez les hommes, à savoir ces choix du partenaire. Et ce choix du partenaire qui influe sur l'évolution même de ces espèces. Et il montre comment, par exemple, certains traits caractéristiques des mâles sont non pas liés à une quelconque sélection naturelle générale, mais bien au choix de la femelle. Et c'est souvent la femelle qui choisit, par exemple le paon, c'est l'exemple banal, le paon qui a une queue absolument sublime, énorme, qui l'étale
pour
parader, et la femelle qui va choisir celui qui est le plus à son goût, etc., elle-même étant beaucoup plus terne. Alors voilà, il y a des phénomènes de sélection de certains traits, et dans l'humanité, on voit qu'il y a des traits masculins qui sont pas compréhensible autrement que par un choix particulier, le port de la barbe, la pilosité, un certain nombre de caractères. Alors, ce que montre Darwin, et ce qui est très intéressant, et ça a rarement été souligné, c'est que dans l'humanité, au début, dit-il, il spécule un peu, au début, on a une sélection par les femelles, comme dans la plupart des espèces, et puis, les femelles étant ayant tendance à sélectionner les traits des mâles qui tendent à les rendre plus forts, plus protecteurs, plus courageux, etc., eh bien, il y a un renversement qui fait que, finalement, ce sont les hommes qui s'approprient le choix Et c'est vraiment une chose qui est très intéressante, qui n'existe pas dans le discours darwinien dans les autres espèces, mais qui existe dans l'humanité. Il y a donc une histoire. Il y a une histoire. On passe du choix féminin au choix masculin. Et ensuite, Darwin explique que tout ça, effectivement, joue un grand rôle dans les traits féminins et masculins qui sont sélectionnés, mais tout ça aussi peut se modifier en fonction des contextes.
On va écouter la voix de Jean Rostand. C'était en 1952, autour de la sélection sexuelle de Charles Darwin, justement.
Il y a une théorie fameuse que vous connaissez sans doute, celle de Darwin, théorie de la sélection sexuelle. D'après Darwin, seul aurait survécu, du moins aurait survécu de préférence aux autres, les beaux mâles, les mâles les mieux ornés ou les mieux armés, soit parce que leurs armes leur conféraient un avantage dans la compétition avec leurs rivaux, soit parce que ces ornements les avantageaient aux yeux des femelles qui les choisissaient de préférence aux autres. Il y a, pense-t-on aujourd'hui, du vrai dans cette théorie. Ainsi, on pourrait admettre que dans le passé de l'espèce humaine, les femmes ont préféré les hommes qui portaient de belles barbes.
Jean Rostand, donc, en 1952, Claudine Cohen. Et il faut d'ailleurs, parce que là on est en 52, mais Darwin c'était encore bien avant, dans cette Angleterre victorienne. Oui. Donc il faut aussi l'inscrire dans ce contexte historique pour bien comprendre comment il interprétait Darwin l'inégalité entre les hommes et les femmes quand même.
Oui, oui bien sûr. Le livre est certainement beaucoup moins abouti que L'Origine des Espèces. Oui. C'est un livre très touffu, où il y a beaucoup d'influences, des idées... eugéniste.
La descendance de l'homme, c'est ce livre.
Dans La descendance de l'homme de 1868. Ouais. C'est un livre où on voit apparaître de l'idéologie, hein, quand il parle des relations entre les hommes et les femmes. Ouais. On voit qu'il dit que les femmes sont caractérisées par...
La beauté.
La beauté, la douceur, le sentiment maternel, la générosité. Ouais. Alors que les hommes, eux, sont caractérisés par l'intelligence, la puissance, et dit-il même le génie. Hein. Il dit que seuls les hommes peuvent être caractérisés comme géniaux, et pas les femmes. Ouais. Alors, bon, il dit aussi que les femmes sont beaucoup plus proches de l'enfant que de l'adulte, etc. Toutes sortes de traits, évidemment, qui font paraître donc son enracinement dans la société victorienne de son temps.
Et qui inscrivent ces clichés sur le temps long aussi. Parce que
absolument. Alors, Darwin lui-même était assez nuancé, et il arrive quand même à dire « les choses peuvent se transformer mm-hmm. ». Hein, il l'a écrit à une de ses correspondantes, il dit « les choses peuvent se transformer, les femmes pourraient accéder à plus de pouvoir, etc. » Mais, dit-il, ça mettrait en péril les structures de la famille, etc.
Et le problème, c'est que ces idées ont été reprises, développées parfois, défigurées par des élaborations ultérieures. Hein.
Voilà. Alors, il y a des gens qui ont rigidifié la pensée de Darwin, et en particulier, dans les années 1970, s'est élevé un courant qu'on appelle la sociobiologie, qui, elle, prétend s'inspirer de Darwin pour fonder une théorie vraiment naturaliste de la domination masculine. On voit que j'ai expliqué que Darwin était beaucoup plus nuancé et faisait appel à l'histoire, l'historicité de ces choses, alors que les sociobiologistes, eux, c'est disent ça. Qu'il y a un déterminisme génétique.
C'est ça. Donc la biologie, finalement, appuie ces spéculations.
Une certaine lecture de la biologie, hein, parce que quand même, la sociobiologie, c'est une théorie qui a été extrêmement critiquée, y compris par les biologistes. Pourquoi ? Parce que c'était d'abord une réflexion sur les sociétés animales qui a été ensuite transposée sur les comportements humains. Ouais. Et donc l'idée d'un déterminisme génétique des comportements masculins et féminins, ça induit un certain nombre de positions qui sont quand même très difficilement acceptables. Qu'est-ce que ça dit ? Ça dit que génétiquement, tout individu doit s'efforcer de perpétuer ses gènes, donc les distribuer au maximum. Les hommes, ayant beaucoup de spermatozoïdes, peuvent avoir une activité sexuelle multiforme, exacerbée, y compris par la violence, hein, par le viol, alors que les femmes, elles doivent protéger leurs précieux ovules, et donc elles doivent rester sédentaires, elles doivent rechercher des partenaires plus vieux qu'elles, qui les protègent, etc. Et donc il y a une dissymétrie très forte qui est inscrite dans le déterminisme génétique. Alors ça, ce sont des idées qui sont vraiment inacceptables.
En tout cas, on peut créditer quand même Darwin d'avoir ouvert tout un champ de réflexion les relations entre les sexes dans le règne animal et chez les animaux.
Bien sûr, bien sûr. Mais il y a des lectures de Darwin qui sont souvent idéologiques.
Ouais. Claudine Cohen, on va se retrouver dans un instant pour ce voyage aux origines de la domination masculine. Vous répondrez aux questions également et aux messages qui arrivent sur la page de la Terre au Carré.
Mathieu Vidard, la Terre au Carré.
Zahar, un jeune d'eau argenté, s'est installé d'un côté de l'étang, ce qui provoque la jalousie des autres. Ils sont 5 contre 1. Mais le jeune d'eau argenté a des choses à prouver. S'il arrive à convaincre les femelles qu'il a les qualités qu'il faut, elles accepteront peut-être de venir le rejoindre. Tous les jeunes d'eau argentés doivent faire leur preuve. Ce genre de victoire contribue à leur donner de l'assurance et à asseoir leur réputation.
Et quand on parle d'eau argentée, on parle gorille. Claudine Cohen, vous qui êtes notre invitée avec cet ouvrage chez Passé Composé aux origines de la domination masculine. Alors on évoquait très rapidement tout à l'heure les travaux en éthologie des primates. Est-ce qu'au cours des dernières décennies, l'étude par exemple des gorilles a permis de faire avancer la connaissance sur ces questions
Oui, alors il y a beaucoup de travaux qui ont été menés par des gens tout à fait remarquables. Je pense par exemple à Franz de Waal, qui vient de nous quitter, qui a fait un très très beau travail sur l'éthologie des grands singes. Alors la question est de savoir si ce que nous savons des comportements des grands singes peut être directement transposé au comportement humain.
Ouais.
Alors, ce qu'on appelle les grands singes, c'est-à-dire les hominidés, ce qu'on appelle ces grands singes qui sont les plus proches de nous biologiquement et dans l'évolution.
Donc gorille, orang-outan, bonobo, chimpanzé, et j'en oublie un. On les a à peu près, allez,
oui.
C'est pas grave.
Oui, alors, ces grands singes, ils ont chacun des gibbons, hein, vous avez oublié les gibbons.
Absolument.
Donc, ces grands singes, ils ont chacun leur mœurs et leur pratique sexuelle, etc. Or, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une grande diversité, même parmi ces grands singes. Donc, il y a des comportements de harem, un mâle qui domine plusieurs femelles, des comportements de domination dans un couple. Il y a, chez les gibbons, par exemple, il y a une harmonie entre le mâle et la femelle.
Ouais.
Hein, ils chantent ensemble, ils vivent ensemble toute leur vie, etc. Et puis, il y en a où ce n'est pas le mâle qui domine, mais plutôt les femelles.
Chez les bonobos, par exemple.
Chez les bonobos. Alors, on connaît bien maintenant les bonobos, justement, grâce aux travaux récents de Franz de Waal et d'autres, qui ont montré que les femelles s'allient entre elles pour dominer les mâles. Et c'est très intéressant.
On peut parler de matriarcat dans le cas des bonobos
On a parlé de matriarcat, bien que ce soit un petit peu une façon un petit peu métaphorique de dire les choses. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est à la fois que ce ne soit pas des comportements homogènes parmi tous les grands singes. Et on ne peut pas s'autoriser de se penser sur les grands singes pour penser la domination masculine chez l'homme. Et d'autre part, c'est le fait que l'alliance entre les individus est créatrice de transformation dans les modes de la domination. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. C'est quelque chose de social, c'est quelque chose qui n'est pas biologique. Et on peut penser aussi, et il y a eu des travaux très importants et intéressants, Barbara Smuts, par exemple, a écrit des très beaux articles là-dessus, que ces questions d'alliance ont été déterminantes dans la manière dont se sont structurées les sociétés humaines.
Claudine Cohen, vous évoquiez donc dans cet ouvrage la question de la nature humaine, de la domination, le désir de dominer. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce qu'il est inscrit dans la nature humaine ou plutôt dans la nature masculine?
Alors la nature, c'est un terme qui revient souvent. Il y a des très beaux travaux qui ont été effectués sur la notion de nature, en particulier au XVIIIe siècle. Elle vient se substituer un peu à Dieu, la nature. La nature, c'est tout bon, c'est tout ce qui est bien, c'est quelque chose qu'on ne peut pas transformer. Mm-hmm. C'est une espèce d'alibi, la nature, une espèce d'idée qui permet de dire qu'il faut accepter ce qui est. Voilà. Alors, ça veut dire le déterminisme génétique, ça veut dire l'exemple des grands singes, ça veut dire l'instinct, et tout ça travaillerait, en quelque sorte, à l'intérieur de l'humanité.
Tout ce qui est inné, finalement.
Oui, des choses innées qui détermineraient ce qu'on appelle aujourd'hui la domination masculine. Mmh. Or, ce que je donne comme définition de la domination masculine, c'est justement autre chose que la détermination naturelle. Ce sont des déterminations sociales. Mmh. Et je pense que ce qu'on peut définir comme domination masculine, c'est toutes ces c'est le genre induit hein, comme relation, comme détermination sociale des rôles au sein des sociétés, même les sociétés les plus anciennes,
ouais.
Des relations de dépendance, de contrôle, de subordination.
Alors, puisque vous êtes historienne, où nous fait remonter l'histoire précisément pour voir un moment de bifurcation, en tout cas d'inégalité entre les hommes et les femmes?
Écoutez, ça remonte aux origines des sociétés humaines. Je ne peux pas en dire tellement plus. Alors, ces sociétés humaines...
Mais si on les datait un petit peu pour nous donner des repères...
Je pense que aux origines du genre homo, il devait y avoir déjà des sociétés,
ouais.
Des groupes qui étaient...
Donc là, on est à 2 millions d'années. Hein,
on est à 2 millions
d'années.
On est très loin. C'est une hypothèse. Hein. La constitution d'un groupe humain, comme l'ont montré les ethnologues, se situe à travers la détermination d'un certain nombre de règles, mmh. d'interdits. Et donc, évidemment, elle suppose la convention, elle suppose le langage aussi bien, alors. Je ne sais pas s'il y avait le langage chez les premiers représentants du genre homo, mais en tout cas, certainement chez les Néandertaliens et chez les sapiens du paléolithique moyen et supérieur. Voilà.
Alors justement, parlons des rôles masculins et féminins au paléolithique, parce que si l'on pense aux relations entre les sexes à ces époques, il y a beaucoup d'images hein, qui reviennent en mémoire, avec des représentations très stéréotypées. Ça fait 2 siècles hein, qu'on voit quasiment les mêmes choses. L'homme velu, armé d'un gourdin, qui traîne sa femme par les cheveux au fond de la caverne. Ces représentations, qu'est-ce qu'elles nous racontent?
Elles nous racontent
l'histoire, réellement, ou
non.
Un fantasme?
Elles nous racontent d'abord ce que pensent les victoriens, parce que c'est à l'époque victorienne que ça s'est créé, hein, avec toutes les inhibitions qui sont levées quand on parle de préhistoire. Hein, il n'y a plus les cadres
Donc c'est le 19e siècle finalement qui réécrit
puis,
l'histoire.
Oui, et elle nous raconte aussi que c'est la nature qui induit les relations entre les êtres.
Mmh.
Or, ce que je viens de dire, c'est qu'il ne faut pas penser les relations entre les hommes et les femmes à travers des cadres d'instinct, de nature, qui détermineraient voilà, des comportements brutaux, violents, etc. S'il y a comportements brutaux et violents, eh bien, ils sont régulés par la société. Toute société humaine règle les comportements entre les individus. Et donc, il y a certaines de ces règles qui autorisent des comportements violents, mais d'autres qui limitent, qui canalisent et qui même punissent les comportements violents.
Mais prenons l'exemple de la chasse, Claudine Cohen,
oui.
Une activité dont on dit qu'elle était uniquement pratiquée par des hommes. L'homme chasse, la femme cueille, l'homme apporte la nourriture, la femme la prépare, la cuit. Ces idées, elles ont nourri largement la vision de la division sexuelle du travail dans les premières sociétés humaines.
C'est vrai.
À la lumière de votre enquête, qu'est-ce qu'il en ressort?
Écoutez, c'est une enquête que j'ai déjà menée dans les livres précédents, hein,
oui,
quand
oui.
j'ai parlé de la question des femmes.
On ne les a pas forcément lues, donc...
Oui, la place des femmes. Bon. Pour dire cela rapidement, sans doute la chasse est un phénomène important qui, d'ailleurs, se développe surtout à partir du paléolithique supérieur, la grande chasse. Avant, il y avait peut-être du charognage, il y avait peut-être des chasses de petits animaux. Mais voilà, il y a quand même ce développement qui est caractéristique du paléolithique supérieur. Et puis, il y a le fait qu'il faut penser que la chasse n'est pas forcément uniquement dévolue aux hommes, hein, comme on l'a longtemps cru. On a cru que c'était les hommes qui avaient fait toutes les avancées de l'humanité à travers la chasse, l'intelligence, l'habileté, le rapport entre les individus pour s'entendre, la ruse, etc. Mais que les femmes, certainement, jouaient un rôle dans la chasse. Comme,
d'ailleurs, on voit,
c'est le cas.
Vous le rappelez encore aujourd'hui, chez des populations de chasseurs-cueilleurs,
absolument.
Les femmes participent à la chasse. Hein.
Absolument. Alors, on a souvent dit, par exemple, Alain Testard a souligné le fait que les femmes ne versent pas le sang, hein, n'utilisent pas des objets qui percent et qui peuvent tuer, mais peuvent participer au rabattage, à la course derrière le gibier,
c'est
au
ça.
Dépeçage.
Les femmes étaient très mobiles au paléolithique, il ne faut quand même pas l'oublier. Elles n'étaient pas là dans la caverne à attendre qu'on leur apporte la nourriture.
Tout à fait. Et je pense que là, il y a un regard, il y a une transformation du regard sur le paléolithique qui a, vraiment qui a émergé dans les dernières décennies et qui montre que les femmes n'étaient pas si mal traitées qu'on a bien voulu le croire. Mmh. Et qu'elles avaient toutes sortes d'activités qui, justement, ouvraient leur espace. La cueillette est une activité qui demande de faire des kilomètres pour aller trouver les plantes. Elles espaçaient sans doute les naissances, ou en tout cas, il y avait un espacement de naissance, pas seulement par la mortalité infantile, mais aussi par ce qu'on appelle l'aménorrhée de lactation, le fait d'allaiter qui arrête l'ovulation, hein, et qui fait qu'on peut espacer d'environ 4 ans les grossesses, etc. Donc, l'image de la femme entourée d'enfants au fond de la caverne ne fonctionne pas. Alors, il y avait certainement au paléolithique des formes de domination, hein, à partir de ces alliances de mâles, à partir de ce qu'on appelle l'exogamie, le fait d'aller chercher dans un autre groupe une compagne en l'enlevant ou en échangeant les femmes d'un groupe à l'autre. Il y avait certainement des contrôles liés à la reproduction, et en particulier aux femmes en tant qu'elles sont reproductrices, hein, on contrôlait leur fidélité, leur mouvement, etc. Mais je pense que les femmes étaient certainement assez libres et, disons, plus à même de déterminer leur propre comportement dans les sociétés paléolithiques.
On va écouter Claudine Cohen, le court extrait d'un documentaire sur la domination masculine de Patrick Jean, c'était en 2009, avec des paroles d'enfants.
Je pense que d'être le chef, c'est le travail des garçons et pas des filles. Souvent, la maman, c'est pour les tâches ménagères. Et les hommes, ils font des choses un peu plus difficiles.
Voilà, ce sont des petites filles qui s'expriment.
Ouh là 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 là.
C'était en 2009.
En 2009, bah oui, les hommes font les choses difficiles, les mamans, elles font les tâches ménagères, c'est les hommes qui commandent. C'est quand même des cadres qui sont bien inscrits dans le psychisme des enfants, et je pense que c'est des choses qu'il faut absolument essayer de rectifier. Hein. Ça n'a pas toujours été le cas.
Hein. C'était en 2009, alors il faudrait revoir aujourd'hui si ces petites filles du même âge ont les mêmes réflexions ou si ça a changé.
Je pense que nos sociétés ont beaucoup mis l'accent sur la nécessité de changer en particulier les lois, hein, ouais. De changer les comportements, de changer même l'idéologie, l'éducation. Alors, bon, je ne sais pas jusqu'où on est arrivé, mais je pense que là, les termes mêmes de cet enfant, les choses beaucoup plus difficiles, c'est les papas, et les choses ménagères, c'est les mamans. Je crois qu'il y a là de l'idéologie qui doit être vraiment critiquée.
Vous avez retrouvé, Claudine Cohen, les fondements du patriarcat. Nous irons à l'âge du bronze avec vous dans un instant. C'est évidemment extrait de votre ouvrage « Aux origines de la domination masculine ». On en parle dans un instant. Et puis vous répondrez aux messages et aux questions qui arrivent sur la page de la Terre au Carré.
France Inter. La Terre au Carré. Mathieu Vidard.
Pour la première fois, on s'est rendu compte que la domination de l'Homo erectus phallocrate n'était pas une fatalité.
On n'avait pas encore inventé le feu que déjà le modèle dominant était celui de la femme au foyer. Pareil au Jurassique, on a toujours dit un diplodocus. Vous avez déjà entendu parler d'une diplodocus?
Et encore, on peut s'estimer chanceuse de vivre à la préhistoire.
Venez toutes signer la pétition des lémuriennes de garde pour la parité homme-femme dans la chasse aux mammouths.
On exige une parité absolue. Pour un chasseur, une chasseuse. Pour un cueilleur, une cueilleuse.
Ah non, mais c'est clair, hein. Si les dinosaures avaient été moins misogynes, ils auraient jamais disparu.
Extrait de Silex and the City, Claudine Cohen.
Ce sont des raccourcis vertigineux.
Mais ils sont drôles, au moins. Oui. Aux origines de la domination masculine, chez Passé Composé, c'est l'ouvrage que vous publiez. Alors, laissons justement toute la période des grottes pour arriver vers la sédentarisation et le néolithique. Parce que là, il se passe vraiment des choses intéressantes.
Hein. Tout à fait.
C'est-à-dire qu'on s'installe, naît l'agriculture, et là, les modes de vie se transforment énormément. Est-ce que d'ailleurs, le rôle entre les deux sexes évolue dans le même temps avec la répartition des tâches?
Tout à fait. Je pense que le néolithique est vraiment un moment de grande transformation des relations de genre.
Donc 10-12 000 ans à peu près. Hein.
Oui, à partir de 10-12 000 ans, puis ça se développe plus tard en Europe. Ouais. Donc on a effectivement de nouveaux rôles qui sont assignés. On est sédentaire. Hein. Ouais. Il faut cultiver la terre, il faut élever les animaux. Les femmes doivent faire beaucoup d'enfants. Contrairement à ce qui se passe au paléolithique, ils doivent faire beaucoup d'enfants parce qu'il faut cultiver la terre, parce qu'il faut transmettre les biens. Et donc, elles sont tout le temps entourées d'enfants. Hein, et il faut qu'elle fasse des fils, parce que c'est aux fils qu'on se transmet les biens et que la filiation donc, se passe de mâle en mâle. Ouais. Hein, et puis, donc, il y a cette séparation des espaces avec l'espace privé, l'espace de l'intérieur, et puis l'espace plus large de la sociabilité, du savoir, de tout ce qui peut être assigné au mâle, enfin aux hommes.
Donc il y a une vraie séparation dans la hiérarchie des activités entre les hommes et les femmes.
Tout à fait. On est là dans un moment où se dessine avec beaucoup plus de force cette division du travail qui continue d'ailleurs dans les sociétés agro-pastorales hein, où on voit cette même distribution des rôles avec non seulement une inégalité sociale mais même aussi des phénomènes qui peuvent être des phénomènes de violence d'oppression de contrôle beaucoup plus accentués.
On voit se multiplier hein, les conflits violents.
Oui.
Et ce sont aussi des actes de violence qui sont incarnés par des hommes plutôt.
Oui. Oui, alors vraiment les débuts de ce qu'on peut appeler la guerre, hein, c'est le Mésolithique, hein, il y a entre 12 000 et 10 000 ans, mais on a des charniers qui existent tout au long du Néolithique, et on voit effectivement se passer des meurtres importants, y compris des meurtres de femmes, ou alors des groupes où il y a des groupes de cimetières où il n'y a pas de femmes, et où peut-être les femmes ont été enlevées justement pour
kidnappées
en quelque sorte hein, pour des échanges ou pour les besoins de la reproduction.
Les fondements du patriarcat, c'est l'âge du bronze, ça on est à peu près clair là-dessus. Qu'est-ce qui vous permet de l'affirmer?
Alors, je pense que la domination masculine, encore une fois, s'accentue très fortement au néolithique.
Ouais.
Mais ce qui se passe à l'âge du bronze, et en particulier dans les sociétés mésopotamiennes, c'est que cette domination s'institutionnalise. S'institutionnalise, c'est-à-dire qu'elle s'inscrit dans les lois. Ce sont des cités-états qui se créent à ce moment, hein, 3000 ans avant notre ère.
C'est ça, c'est le troisième millénaire.
Et ces lois peuvent s'inscrire, puisqu'on a inventé l'écriture, peuvent être écrites, peuvent être solidifiées en quelque sorte, les rapports entre les hommes et les femmes peuvent être vraiment institutionnels et rigidifiés.
Donc c'est l'invention de l'écriture et des métaux.
Et des métaux, des armes de métal.
Voilà, ça va avoir un rôle majeur.
Qui joue un rôle majeur dans cette continuation de la guerre et dans cette accentuation des possibilités même de la violence et de la domination.
Puisque vous identifiez donc les fondements du patriarcat à ce moment-là, donc troisième millénaire, ça se développe de façon linéaire, au contraire de façon très différente selon même les régions du monde.
Ah, sans doute, oui. Moi, je parle beaucoup ici de la Mésopotamie, hein, parce que j'ai voulu
institution du patriarcat.
Voilà.
C'est ce que vous écrivez.
Voilà. Mais c'est sûr que dans d'autres régions, les choses se passent un peu différemment, que ce soit en Europe ou dans d'autres régions où les cadres, ces cités-états, sont moins présents et où les choses se distribuent dans la durée de façon différente.
Et la religion a joué un rôle majeur, justement, dans l'installation de la puissance patriarcale?
Oui. La raison pour laquelle j'ai parlé aussi de ce moment et de ce lieu, c'est que c'est aussi le berceau des grandes religions du livre.
Oui. Hein.
Le judaïsme émerge de ces sociétés mésopotamiennes et donc toutes les règles, toutes les lois qu'instaurent les religions du livre, hein, que ce soit le judaïsme,
le christianisme
plus tard et l'islam, sont donc des cadres patriarcaux, hein, très forts, très puissants.
Les hommes dominent la vie sociale, spirituelle et familiale.
Non seulement sociale, voilà, familiale, et ils ont même droit de vie et de mort sur leurs femmes. Hein. Même les contrats, les Mésopotamiens ont inventé le contrat de mariage. Hein,
ouais.
Et les contrats de mariage sont traités en absence de la jeune femme, entre le mari et le père, et sont vraiment des contrats presque de vente, hein, des contrats marchands. Hein, la femme est un objet de marchandise. Et donc, il y a cette multiplication des formes de la domination et cette rigidification des formes de la domination dans les religions qui se trouve se prolonger encore jusqu'à aujourd'hui.
Allez Claudine Cohen, on passe aux questions et aux témoignages des auditeurs et auditrices. Noé nous écrit, elle nous dit « Ma fille de 6 ans m'a fait remarquer hier que le terme « homme » désigne les garçons et les humains, alors que « femme » désigne les filles. » Et la question qui tue, pourquoi ?
Alors,
est-ce que vous pouvez aider Noé ?
C'est toujours l'histoire de l'écriture. Hein. Bon, je suppose qu'à 6 ans, elle sait écrire, cette petite fille. Moi, j'écris « homme » avec un H majuscule lorsqu'il s'agit de l'humanité. Et avec un H minuscule, lorsqu'il s'agit du genre, du masculin. Mmh. Alors, on peut effectivement éviter cette ambiguïté. Hein, c'est quand on parle, évidemment, la majuscule ne s'entend pas. On peut essayer de détourner le problème en disant les humains, l'humanité.
Il faut prendre l'habitude, hein, finalement.
Voilà, on peut essayer de parler comme ça. Mais dans l'écriture, les choses, à mon avis, sont claires. Mmh.
On va écouter Léo de Paris, nous a laissé un message, une note vocale pour vous, Claudine Cohen.
Bonjour, c'est Léo, au sud de Paris. Votre invité a dit que les expériences sur la domination masculine avaient été surtout réalisées auprès d'animaux. Est-ce que ça voudrait dire que, pour elle, Homo sapiens n'est pas un animal ? Voilà, je vous remercie.
Les animaux non humains, alors, il faut préciser.
Oui, alors... Les expériences, je crois pas que j'ai parlé d'expériences, j'ai parlé d'observations. Hein. J'ai parlé d'éthologie, comme la science qui traite des éthologies des primates, qui traite des comportements des primates. Évidemment, l'homme est un primate, hein, l'homme et la femme sont des primates. Évidemment, nous sommes des singes, hein, nous appartenons à cette grande superfamille des hominidés, mais j'établis une différence très importante entre les comportements animaux qui sont régis par des instincts et les comportements humains qui sont régis par des règles qui sont établies par les humains eux-mêmes. Et je crois qu'il y a là une grande différence qui permet de dire que l'humain est un primate, certes, mais c'est un primate dont les sociétés obéissent à d'autres règles et d'autres comportements que les primates non humains.
Allez, encore trois questions très rapides, Claudine Cohen. Marie nous dit, dans les pays où les mariages sont libres, comment expliquez-vous que la sélection sexuelle ne mette pas fin à la domination masculine ?
Je ne comprends pas très bien la question. Ne mette pas fin. Je pense que la sélection sexuelle, elle existe dans les choix que les hommes font des femmes. Et quand les mariages sont libres, ces choix peuvent effectivement se porter sur des femmes plus fragiles, plus graciles, pour les dominer. Cela dit, même Darwin dit que dans nos sociétés, la sélection sexuelle ne marche pas aussi bien qu'il y a très longtemps aux origines de notre espèce.
Nathalie nous dit, je reviens du square. Pouvez-vous me dire pourquoi certaines femelles, entre guillemets, élèvent leurs petits mâles de telle façon qu'ils deviennent de redoutables dos argent une fois adulte ?
Ah ben, c'est toute la question de l'éducation. L'éducation est justement ce qui perpétue un certain nombre de valeurs. Et nous sommes dans un moment où, effectivement, il y a des hommes qui sont conscients de la nécessité de changer leur comportement, que ce soit dans la sphère privée, dans le public. Il y a des transformations des cadres sociaux, des lois, etc., qui tendent aujourd'hui à transformer ces choses-là.
Merci beaucoup Claudine Cohen d'être venue au micro de la Terre au Carré. Je renvoie donc sur votre ouvrage aux origines de la domination masculine. Grand voyage dans l'histoire. C'est aux éditions Passé Composé. Merci d'être venue nous en parler. À très bientôt.
Merci.